Cours d'actualité. Alors, on va lire dans le livre du prophète Daniel, livre du prophète Daniel, au chapitre 9. On lira à partir du verset 20. Voilà Daniel, un homme de Dieu remarquable, un homme en phase avec son temps. Il n'était pas décalé. Il n'était pas désorienté, mais Daniel était un homme à l'écoute de Dieu. Daniel 9, 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché du peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Alors, on arrête là la lecture, on ira lire un petit peu ailleurs dans le livre du prophète Daniel. Donc c'est formidable quand Dieu peut trouver les croyants à l'écoute, des croyants qui ont l'oreille attentive par rapport à ce que Dieu dit. Et nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui continue de parler. Si nous lisons attentivement cette prière, cette confession de Daniel, on remarquera qu'elle s'inscrit dans le temps où il a vécu, mais également dans un avenir lointain et qui nous concerne, nous, aujourd'hui. C'est ce qu'on peut appeler l'eschatologie. Donc, le livre du prophète Daniel, eh bien, il est un livre prophétique, bien sûr. Quand nous les mettons avec Daniel, Ézéchiel, Apocalypse, ils peuvent bien s'harmoniser par rapport aux événements de la fin des temps. Donc, Daniel, c'est un livre prophétique. Et il parlait non seulement pour son temps, mais également pour ce temps lointain, pour ces temps de la fin. Et nous y sommes. La vie de Daniel, la vie de prière de Daniel, était en phase avec le plan et les desseins de Dieu. C'est une exhortation pour nous ce soir aussi, pour que l'Église avec un grand E soit attentive à ce que Dieu dit et à savoir comment marcher dans ces temps qui sont les nôtres. Cette prière est profonde. Cette prière de Daniel, elle est profonde et elle laisse entrevoir un cœur mis à nu, un cœur brisé, un cœur humilié. Je voudrais souligner d'abord le début du verset 20. « Je parlais encore et je priais ». Alors on dit, mais est-ce qu'il y a une différence entre parler, prier? Prier, c'est parler à Dieu. Est-ce que... Et là, on voit qu'il y a quand même une différence. Je parlais encore et je priais, je confessais mon péché. Il parlait avec Dieu. On sent quand même comme cette intimité, cette familiarité de Daniel avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Ça laisse sous-entendre cette relation, comme nous avons vu dimanche, d'intimité. Il ne faisait pas la prière, mais il parlait avec Dieu. Il parlait. Dieu parle également à Daniel parce qu'il est à l'écoute. Je crois que Dieu parle aujourd'hui dans des temps particuliers que nous traversons et nous voulons être à l'écoute. Avons-nous appris à parler à Dieu? Nous savons prier, mais parler avec Dieu, converser avec Dieu, tout au long de la journée, dans des moments de la journée. Il est familier, Daniel, de Dieu. Et il aura une réponse, et une réponse rapide, nous dit le texte. Au moment où il parlait, où il priait, il confessait le péché, eh bien la réponse est venue. Dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de recevoir des choses qui viennent du cœur de Dieu, des choses d'en haut, des choses produites par l'Esprit, par la parole, et non pas des choses d'en bas. Ce qui est bon, ce qui est durable, ce qui nous fait du bien, ce qui peut nous fortifier, nous vient de Dieu lui-même, nous vient d'en haut, et nous avons besoin de recevoir dans ces temps particuliers des choses de la part de Dieu. Et je crois que Dieu veut communiquer, Dieu veut bénir dans ces temps particuliers. Je parlais, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Il confesse son péché et le péché du peuple. Il s'inclut, il s'associe, il n'est pas au-dessus. Il ne pointe pas du doigt le peuple, les péchés du peuple, mais il est avec. Il fait corps et c'est important. On est unis dans la bénédiction, on est unis aussi dans les moments difficiles, on est unis aussi quand il y a la repentance, on est unis, le peuple entier. Cela me rappelle aussi dans le livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 1er, quand Néhémie, cet homme de Dieu aussi, reçoit des nouvelles de Jérusalem, il est profondément attristé, il est comme abattu, il va prier, il va jeûner, et puis il va confesser le péché du peuple et son péché. Il s'est associé aussi, Néhémie, dans le chapitre 1er. Il ne pointe pas du doigt les autres. Je crois qu'on a besoin de se tenir ensemble devant le Seigneur. Nous devons veiller, chacun pour notre part, dans ces temps particuliers où des vents soufflent, des vents contraires, des vents forts soufflent. Nous devons veiller à garder ce que nous recevons du Seigneur, ce que nous recevons de la parole, ce que nous recevons dans la prière, ce que nous recevons dans la prédication. Nous devons le garder précieusement dans notre cœur. Parce que ces vents de crainte, ces vents de peur, ces vents peuvent aussi enlever eh bien, ce que nous recevons de Dieu, de la part du Seigneur. Et comme Paul le dira à Timothée, garde le bon dépôt dans ton cœur. Que ces temps puissent nous amener les uns et les autres au trône de la grâce. Nous incliner devant le trône de la grâce. Que ces temps particuliers nous amène également à nous affermir davantage. Que ces temps permettent aussi que, en méditant davantage la parole de Dieu, notre foi grandisse. Comme je le disais, l'inquiétude, la crainte sont des choses normales, même chez le croyant, mais elles doivent s'estomper quand la parole de Dieu arrive à notre cœur. Quand les promesses de Dieu arrivent, la crainte doit s'enfuir. L'inquiétude doit être bannie parce que la parole de Dieu est plus forte que toutes les craintes, que toutes les peurs, que toutes les angoisses. La parole de Dieu a une autorité et elle vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a proclamé cette parole et quand elle arrive dans notre cœur, eh bien, la crainte doit s'enfuir et laisser place à la parole du Seigneur. Plus forte que nos craintes, que nos peurs. Jésus dira bien des fois, ne crains point ou ne crains plus, mais crois seulement. Devant la parole de Dieu, rien ne doit résister. Il y a une autorité extraordinaire dans cette parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Il y a une autorité, rien ne doit résister, même pas l'ennemi. Jésus s'est servi de la parole face à l'ennemi, il n'a pas pu résister. Il y a une autorité extraordinaire dans cette parole et qui, ben nous bénissons le Seigneur, hein, parce que c'est lui qui parle et c'est lui qui agit. Dieu est fidèle à sa parole et il accomplit toujours ce qu'il promet. Alors, dans quel temps vivait Daniel ? Daniel vivait dans des temps particuliers à Babylone, sur une terre étrangère. Il y a eu une déportation. C'est un des temps les plus difficiles pour le peuple d'Israël. Pour le peuple de Dieu, ils n'ont plus de temple, plus de culte. Ils ne peuvent plus se réunir librement. Ils sont obligés de s'occuper des affaires d'étrangers, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas librement eh bien, se réunir. Daniel parla avec Dieu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, Daniel, en parlant avec Dieu, mais il a dû dire certainement des choses intéressantes pour que Dieu soit attentif, pour que Dieu eh bien, enregistre ce que Daniel dira et qu'il puisse exaucer. Il ne parlait pas, je ne pense pas qu'il disait des choses à côté ou étrangère à la situation. Il ne dit pas à Dieu de changer les choses, de les délivrer rapidement de cette situation, mais dans ces temps que nous vivons, nous-mêmes, eh bien, nous voulons aussi parler avec Dieu, mais nous voulons être inspirés aussi, que nos prières soient inspirées. Et quand nous parlons avec Dieu, nous ne voulons pas lui dicter les choses. Nous ne voulons pas dire « Seigneur, fais un miracle, anéantis ce virus », comme nous voyons sur la toile, beaucoup de… Il y a des combats pour anéantir le virus, etc. Des tas de prophètes qui se lèvent dans ces temps particuliers. Ils se sont découverts prophètes, certains, mais je crois que le point de départ pour chacun d'entre nous, pour l'Église, mais également pour notre nation, je crois que le point de départ, c'est la repentance. Conviction de péché, de demander à Dieu d'agir dans nos cœurs, d'implorer sa grâce. Daniel n'est pas à côté, il est en phase avec la situation, il est en phase avec ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Il est en phase et il confesse son péché et le péché du peuple. Dans cette période, Daniel va consulter les livres. Et ça, nous le trouvons dans le chapitre 9, au début, au verset 2e, Daniel 9, 2. Il est dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 semaines pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années que l'Éternel avait placées, etc. » Il a consulté les livres, il a consulté la parole de Dieu. Dans ces circonstances difficiles, il n'a pas laissé libre cours à ses sentiments, laissé libre cours à écouter les nouvelles de droite et de gauche, des solutions d'ici ou de là-bas, mais Daniel est allé consulter les livres, ce que Dieu avait décrété. Il choisit d'écouter Dieu, et il découvre eh bien, que Dieu avait déjà mis en garde son peuple, que Dieu, il remarque que la déportation durera 70 ans. Il le voit dans les livres, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et dans cette situation, eh bien, il est tranquille, il sait que Dieu contrôle toute chose, que Dieu est sur son trône, que Dieu a établi, que ce n'est pas étranger, ce n'est pas les circonstances qui ont amené le peuple en déportation, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, c'est important de le réaliser, c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est Dieu qui mettra fin à cette déportation. Dieu crée et il agit, et c'est lui. Daniel a lu, mais il va plus loin que de lire. Il s'inclut dans cette parole. Et avec le peuple, il fait corps avec la parole, il a pris sa part de responsabilité. Nous le voyons dans Daniel 9.3, pardon, je lis encore quelques versets. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous, la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi, Seigneur. À nous, la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mis devant nous par tes serviteurs, les prophètes. Amen. On arrête là la lecture. Donc, on sent qu'il est exactement, oui, en phase, c'est le mot qui me revient, en phase avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les desseins de Dieu. Il n'est pas à côté, il n'est pas perturbé, il n'est pas angoissé, mais il sait exactement ce qui s'est passé avec le peuple, avec les pères qui ont été avertis. Il sait que cette déportation, elle a été voulue de Dieu après plusieurs avertissements. Donc maintenant, eh bien, Daniel va non seulement lire ces choses, mais il va eh bien, se mettre à l'œuvre, se mettre dans ce contexte-là. Il va parler à Dieu, il va prier, il va confesser son péché. Et le fait que Daniel parle avec Dieu, qu'il ait une intimité, il comprend les choses et il sait ce qu'il doit faire et ce que le peuple doit faire. C'est important, ça. La réponse du ciel lui est venue. Cette prière a été exaucée, la réponse apportée par, il est dit l'homme, Gabriel, d'un vol rapide, comme, instantané. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Cette prière a vraiment touché le cœur de Dieu, a obtenu immédiatement une réponse. C'est tellement beau de voir un homme de Dieu, un homme qui sait où il est, il sait dans quel temps il est, il sait ce qui se passe, il sait ce que Dieu est en train de faire et il sait ce que Dieu va faire. Et ça, c'est important. Et je prie que le Seigneur nous donne et nous ouvre l'intelligence, qu'il nous communique un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour les temps dans lesquels nous vivons. Nous ne sommes pas désorientés, nous ne sommes pas affolés, nous savons que nos vies sont dans les mains du Seigneur, que Dieu tient son Église dans ses mains, c'est lui qui l'a bâtie, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand Jésus donnera cet enseignement sur la prière, il dira « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ah, c'est beau parce que Dieu est beaucoup plus intéressé par les motivations de nos cœurs, par les dispositions de nos cœurs que par ce que nous allons dire. Ce sont les dispositions de notre cœur qui intéressent le Seigneur. Dieu, ton Père qui voit d'abord dans le secret et qui exaucera. Alors c'est beau ce que Gabriel est venu dire à Daniel. Gabriel l'instruisit, s'entretint avec lui et lui ouvrit l'intelligence et lui dit de la part de Dieu, tu es un bien-aimé. Bien sûr, ça nous fait penser à Jésus. Quand Jésus a été baptisé, les cieux se sont ouverts et une voix s'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous sommes les uns les autres des bien-aimés du Seigneur parce qu'il nous a rachetés à un grand prix, nous lui appartenons. Son sang nous a lavés, nous a purifiés, nous lui appartenons et nous sommes des bien-aimés. Il veut nous traiter comme des bien-aimés. Il veut nous traiter en intimité avec lui. Et il veut nous parler. Il veut que nous ne soyons pas étrangers à ce qui se passe, mais Dieu veut nous parler. le temps. Daniel priait pour la montagne de Dieu. Voilà le sujet. Il priait pour la gloire de Dieu, finalement, pour le peuple de Dieu. Et Daniel, c'était le centre de la vie de prière de Daniel, la gloire de Dieu. Dans Daniel au chapitre 6 et verset 10, je vous lis ce verset. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, ouvrit où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je trouve que c'est beau parce que le décret, ce n'était pas une petite affaire. Ce décret, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Mais Daniel a continué sa vie de prière parce que c'était le plus important, c'était le centre de sa vie. Le centre de sa vie, c'est que Dieu puisse conduire, que Dieu puisse, que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et toute sa vie a été cela, la gloire de Dieu, d'abord et avant tout. Et devant les menaces du décret, il ne craint pas, il n'a pas craint devant ce décret, mais il a prié en direction de Jérusalem. Il se souvient de Dieu, il se souvient de la gloire de Dieu, du temple, il se souvient eh bien, de cette gloire et il va prier trois fois par jour comme avant. Il n'y a rien qui va modifier sa vie. Cela nous rappelle aussi un verset dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 29, quand on leur a défendu d'enseigner au nom de Jésus, on les a persécutés, on les a mis en prison, mais alors qu'ils se sont réunis pour s'exhorter, pour prier, il dira au verset 29, il est dit dans ce verset, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils n'ont pas craint non plus, ils n'ont pas craint les menaces, Daniel n'a pas craint le décret, mais pour eux, ils craignaient Dieu. Et ça, c'était le plus important pour eux. Ils plaçaient Dieu au-dessus de tous les décrets, au-dessus de toutes les menaces. Il y avait la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu qui était au-dessus. Et je crois que c'est important de le réaliser dans les temps que nous vivons. Dans ces temps, sont dans la main du Seigneur. Et il voudrait que nous puissions le chercher comme jamais, nous l'avons déjà dit, mais il faut que nous nous exhortions à le chercher encore et encore dans sa présence, au niveau de sa parole, nous tenir devant Dieu, non pas pour que nous soyons pires, mais que nous devenions meilleurs. C'est ce que l'apôtre Paul dira, que la parole, l'esprit, la présence de Dieu nous rendent meilleurs. Et que dans cette période, eh bien, nous réalisons que Dieu reste assis sur son trône. Il est le Dieu du miracle, il fait ce qu'il veut, il peut changer les temps, les circonstances, il fait ce qu'il veut, mais nous croyons que ces événements n'échappent pas à Dieu, mais il contrôle toutes choses. Et ce que nous voulons, c'est qu'il contrôle notre vie. Ce que nous voulons, c'est que sa volonté soit faite dans notre vie, dans les temps dans lesquels nous vivons, et que nous comprenions un petit peu que Dieu nous ouvre l'esprit. Il ne nous dira pas tout, bien sûr, Dieu est omniscient, mais quand même, il veut que nous puissions être des moyens de bénédiction dans le temps, dans les temps dans lesquels nous vivons. Que nous puissions communiquer une grâce, quelque chose à ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas de ceux qui subissent, mais nous sommes de ceux qui communiquent quelque chose à ceux qui sont autour de nous. N'oublions pas que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Beaucoup de voix peuvent nous effrayer un petit peu, mais quand arrive la parole de Dieu, toutes ces voix doivent être stoppées, parce que cette parole a une autorité. Et je dirais en terminant que l'humilité de Daniel a été un élément déclencheur, l'humilité. Il se savait tout petit dans ce pays, devant Nebuchadnezzar, il se savait tout petit. Mais il savait que Dieu était beaucoup plus grand que Nebuchadnezzar et tous les rois de la terre, mais il était humble. Et l'humilité est un terreau idéal pour la semence, pour la croissance de cette semence, pour qu'elle germe la parole de Dieu, la foi dans notre cœur. Quand Daniel s'est humilié, la réponse est venue. Et je crois que, eh bien, dans ces circonstances, on ne veut pas bomber le torse, mais au contraire, on veut fléchir le genou devant le Père, on veut fléchir le genou devant Dieu et implorer sa grâce et demander à Dieu qu'il vienne nous visiter, que nous puissions nous repentir d'une manière que l'Église, avec un grand E, puisse revenir vraiment à Dieu, que notre nation puisse connaître des temps de repentance, que le Saint-Esprit peut créer dans notre pays et que Dieu puisse à nouveau eh bien, bénir notre pays. Gabriel est venu pour ouvrir l'intelligence, lui faire comprendre la vision. Alors, que Dieu nous aide, humilions-nous sous la puissante main de Dieu et il nous élèvera au temps convenable. Là où l'aura jugé le Seigneur, il nous élèvera. Mais cette prière est remarquable, il y a tellement de choses à dire dans ces quelques versets que nous avons lus, c'est tellement profond, c'est tellement beau, je vous invite à le méditer encore et à le reméditer, mais que Dieu nous aide dans ces temps particuliers à ne pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, mais à toujours écouter la voix de Dieu, cette voix de Jésus qui rassure, cette voix de Jésus qui fortifie, cette voix du Seigneur qui nous délivre de la crainte, de la peur, cette voix du Seigneur qui est bénissante. Et si nous sommes bénis, nous devenons aussi des moyens de bénédiction pour l'Église et pour ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de toute sa grâce, nous avons besoin de tout son secours. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et nous ne voulons pas chercher des raccourcis, des choses pour prier pour nous-mêmes simplement, mais nous voulons prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ces temps difficiles, comme elle s'est manifestée tout au long de la parole de Dieu, dans des temps encore beaucoup plus difficiles que ceux que nous traversons, mais la gloire de Dieu s'est toujours manifestée. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce qui est suffisante. Ah Seigneur, nous voulons considérer cette parole, la parole de Dieu, comme ayant une pleine autorité. Seigneur, ces temps ne te sont pas étrangers, ils sont prévus dans tes desseins. Depuis avant la fondation du monde, Seigneur, tu savais ce que nous vivrions aujourd'hui. Seigneur, et tu n'es pas surpris, tu n'es pas déstabilisé. Mais Seigneur, nous, si nous restons près de toi, blottis en toi, cachés en toi, ne serons pas non plus déstabilisés. Seigneur, nous voulons simplement que nos vies soient dans le creux de ta main. Bénis chacun, Seigneur, bénis l'Église, bénis les Églises, l'Église avec un grand E. Bénis notre pays, Seigneur. Ah, Seigneur, nous les voyons, Seigneur, ils ont besoin de ton secours. Nous prions pour eux, nous prions pour les autorités. Seigneur, fais grâce à notre pays, fais grâce à l'Europe, Seigneur, fais grâce à notre pauvre monde, Seigneur, qui a besoin de revenir à toi, Seigneur. Nous te prions qu'il y ait des temps de repentance, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit crée ces temps de repentance dans l'Église, dans les Églises et dans notre pays. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus.